qu'est-ce que tu veux faire, toi, dans l'avenir?
Je veux être mécanicien.
Secrétaire de direction.
Dessinateur industriel.
Moi, je voudrais être architecte.
Je voudrais être standardiste parce que j'aime bien les téléphones.
Coiffeuse.
J'aimerais être caméraman.
Hôtesse de l'air.
Historien.
J'aurais être cuisinier parce que la cuisine, ça me plaît. Comme ça, on est sûr de manger à sa faim. Puis c'est un métier qui fera jamais faillite.
Moi, j'ai pas une idée fixe. Il y a des métiers qui me plaisent, mais j'arrive pas à trouver mon métier.
Bonjour.
Bonjour.
C'est vous, Valérie?
C'est moi.
Nima?
C'est moi, le...
Le taxi?
Le taxi. Allez. Bon, on est chez moi aussi, hein. C'est ma maison.
Un ashram coûte 2 500 $ la semaine, un psychiatre 100 $ de l'heure, un astrologue entre 50 et 100 $. Un parcours en taxi ne coûte qu'$1,50 pour le premier miles et 25 cents pour chaque miles supplémentaire. Pourtant, dans les taxis, j'ai appris à me battre honnêtement, j'ai appris à gérer la jalousie ou encore à envahir un pays. Voici ce qu'on peut lire en introduction d'un petit livre paru aux États-Unis il y a une dizaine d'années, intitulé « La sagesse du chauffeur de taxi ». Un recueil de photos et de citations sur les taxis new-yorkais. Une expression parmi tant d'autres, notamment littéraire et cinématographique. Une expression du rôle à part que tiennent les chauffeurs de taxi dans l'imaginaire collectif des villes du monde entier. Dans cet épisode, nous allons évidemment nous concentrer sur la France et plus précisément sur les taxis parisiens.
Je travaille pratiquement 6 jours sur 7. J'ai travaillé 7 jours sur 7 pendant 20 ans. Pas loin de 10 heures par jour, à peu près, le temps qu'on part de chez nous, qu'on rentre, c'est 10 heures par jour, donc c'est plus que ma maison. Je passe plus de temps ici que chez moi.
Et nous allons essayer d'entrer un peu dans l'intimité de cette profession, dans le huis clos qui se joue et se rejoue entre le chauffeur et le client, dans ce dialogue parfois silencieux qui vient troubler ou animer le véritable texte de cette pièce. Je veux parler du monologue intérieur qui accompagne le chauffeur de taxi 10 heures par jour.
Vous êtes taxi de jour ?
Je commence à 5 heures du matin. Donc je suis en fin de soirée pour certains. Et puis je commence les bouchons à 7 heures. Jusqu'à 14-15 heures, ça dépend. Ça dépend si je suis de mon côté de banlieue ou si... Nous, les taxis parisiens, nous d'ailleurs, c'est... Quand on est taxi, on est un taxi de Paris. Sinon, c'est pas la même image. À Paris, on fait vraiment que du Paris, du béton. Les autres, ce sont plus des ambulanciers qui transportent des malades, des choses comme ça. Non, mais les vrais taxis, c'est à Paris. C'est ça. Non, je suis un vrai taxi parisien. Je ne serai pas taxi autre part.
Rencontre avec Valérie, taxi de père en fille depuis 34 ans.
Depuis petite, j'ai la chance d'avoir un papa qui est chauffeur de taxi. C'est une chance, hein, parce que je ne serais certainement pas dans ce métier. Surtout, il y a 35 ans, on ne parlait pas, hein, des femmes taxi. Il n'y en avait pas beaucoup et c'était vraiment un métier qui n'était vraiment pas ouvert, hein, comme ça, comme aujourd'hui. Et j'ai la chance d'avoir ce papa chauffeur de taxi qui commence son métier. Il a été chef à la Thomson. Et il commence son métier en 67, et je suis née en 67. Donc je ne connais mon père qu'à travers cette image de taxi. Et déjà, toute petite, j'adore dire à l'école que mon père est taxi. C'est une fierté quand on dit le métier des parents, mon père est taxi. Donc j'ai eu la chance d'aller travailler une fois par semaine avec lui.
À partir de quel âge ?
Je pense qu'à 5 ans, j'y allais déjà. C'était vraiment un truc incroyable. C'était... une journée mieux qu'à Euro Disney, quoi. C'était une vraie journée où tu allais voir des gens qui te donnaient... Tu allais au marché de Barbès à cette époque-là, les gens prenaient le taxi, ils te mettaient la charrette, ils prenaient 2 oranges, ils t'en donnaient... tu avais toujours un petit chocolat, un petit truc, petite pièce.
Là, on est rue Étienne Marcel, dans le deuxième, hein, deuxième limite bientôt le premier, mais moi, je connais pratiquement toutes les rues. Oui, alors pas toutes non plus, hein, mais parce que je fais partie de l'ancienne génération qui a commencé avec rien du tout. On avait un plan, puis on devait se débrouiller. Et puis, les clients nous aidaient. Il y avait cette... Moi, j'ai un très bon souvenir de mes débuts. Nous, on avait, à l'époque, quand on passait l'examen, on avait 600 rues à apprendre, avec où elles commençaient, où elles finissaient. Voilà. Et puis, on avait 50 itinéraires, 30 ou 50 itinéraires à apprendre. Mais après, on était lâchés comme ça.
Elle bat beaucoup de temps.
Ah, je me rappelle de mon premier jour, de ma première cliente. J'ai chargé à la porte d'Anières une dame qui allait boulevard Pereire et que je ne savais déjà même pas où c'était. Et qu'elle n'était pas très, très, pas très, très gentille, en fait, parce que je lui ai tout de suite dit qu'elle était ma première cliente, mais ça, elle en avait un peu rien à faire. Mais on panique, hein, on paniquait beaucoup à ce moment-là. C'était, tu disais, qui va monter dans ma voiture, où il va aller, que je ne connais pas, comment je vais lui dire. C'était très stressant, hein, parce que on n'avait pas de téléphone, pas de GPS, on avait juste un bout de papier dans nos mains, hein, un plan, parce que quand je regarde, on ne croit pas qu'on puisse vivre comme ça. Mais nous, on n'avait rien, rien, rien. Donc, c'était dur au démarrage. Avant, il y avait deux possibilités. Soit tu appelais une centrale, et là, il y avait une opératrice. Tu disais, je suis au 16 avenue Victor Hugo, à Paris. Elle, l'opératrice, elle prenait son petit micro. On avait, nous, un petit bouton, une petite manette.
Dans la voiture.
Dans la voiture, parce qu'on était affilié à cette plateforme. Et là, elle disait 16 avenue Victor Hugo. Et bien sûr, c'était le plus rapide. Donc, on était peut-être 50 à appeler. Ça, j'adorais, en fait. C'était un challenge, en fait. C'était une compétition. Et là, on entendait, tiens, c'était un copain. On savait parce qu'on connaissait les codes de tout le monde. Si j'avais été la plus rapide, elle annonçait 12,56 en 5 minutes. Mais des fois, on n'avait même pas entendu toute la course. Ben, nous, on tapait à n'importe quoi. Et là, elle disait, alors, vous allez où, 12,56? Et si tu n'étais pas capable de répéter, eh ben, elle dit, c'est pas pour vous. Alors, elle redispatchait. Et ensuite, il y avait le système de la station où là, les gens descendent de chez eux, allaient jusqu'à une borne, puisqu'il y avait beaucoup de bornes dans Paris. Et puis, ils venaient à la station. Il y avait des chauffeurs qui attendaient gentiment. Et puis, voilà.
Et donc, vous vous croisiez en station ?
Tout le temps. On avait, en général, les taxis. Moi, maintenant, c'est différent. C'est toujours différent. C'est un autre métier. C'est le matin, on commençait tous, selon où on habitait. On allait au même endroit, à la même station. Et puis, souvent, c'était notre point de chute, en fait. On revenait, moi, je revoyais régulièrement mon père ou ma sœur à la place Clichy. C'était souvent, on avait un point de chute. Voilà, on revenait, même si on était à Orly, parfois, on descendait et on venait à la place Clichy. En fait, on voulait revoir nos copains. Mais ça permettait ce lien qui n'existe plus aujourd'hui.
Pour vraiment maîtriser son métier, je pense qu'il faut une demi-douzaine d'années. Ce n'est pas que ce soit compliqué, il n'y a rien de difficile, mais il y a énormément de détails et il faut posséder une très forte mémoire afin de pouvoir connaître tous ces détails et qu'ils viennent à l'esprit instantanément.
Vous êtes installé à votre compte ?
Non, je suis dans une très grande compagnie.
Donc la liberté, l'indépendance ne sont pas les mêmes que si vous étiez à votre compte.
Oui, oui, ce ne sont pas les mêmes, bien sûr. Il y a toujours une très grande indépendance, même en compagnie. Mais bien sûr, l'artisan est plus libre. Seulement, il est quand même tributaire d'impératifs très sérieux, d'impératifs économiques. S'il ne travaille pas, il n'est pas payé. Alors, il ne peut pas trop abuser de cette liberté. En fait, la liberté, l'important, c'est de savoir qu'on l'a. Ce n'est pas tellement de pouvoir faire les choses, c'est de savoir qu'on peut les faire. À ce moment-là, on n'en a plus envie. C'est comme lorsqu'on est assez grand, pour atteindre le pot de confiture, on ne les aime plus.
Et là, c'est un homme qui s'appelle Gérard, qui est chauffeur de taxi. On est en 1975. Une émission qui s'appelle Radioscopie de France Inter avec Jacques Chancel. Donc, il dit beaucoup de choses. Hein. Il dit, lui, en 75, il a 6 années pour le métier, une bonne mémoire.
Ah ben ça, oui.
Et il parle de la liberté.
Oui. Oui, peut-être qu'il faut peut-être 5-6 ans pour tout connaître dans Paris. Et encore, il arriverait maintenant avec tout ce qui s'est ajouté à tout ça. Parce que le problème, c'est que les quartiers s'agrandissent. Hein, donc, voilà.
Et ne cesse de se transformer.
Et sans arrêt, les rues changent de sens. Enfin, voilà. Là, on est dans une grosse période où même tous les jours, même moi, avec l'expérience que j'ai, je tombe des fois sur des trucs que je ne connaissais pas. Mais oui, ça, la liberté, c'est vraiment ce que je dis depuis toujours. J'ai l'impression que je sois libre. Je suis libre. Mais par contre, c'est une fausse liberté. Parce que, comme il dit, à la fin du mois, il n'y a personne qui va me donner un salaire. Donc, bien sûr, je peux dire, aujourd'hui, je vais me lever à 5 heures. Et puis non, bah, demain, à 6 heures. Mais quoi qu'il arrive, il va falloir que je fasse mes 10-11 heures de travail. Parce que il y a les charges, il y a tout ça qui va tomber. Si le lendemain, votre voiture tombe en panne, moi, je suis toute seule à gérer tout ça. Cette pression-là, tout le monde n'est pas prêt. Tout le monde ne peut pas devenir indépendant. D'ailleurs, on voit bien tous ces auto-entrepreneurs, ça marche, ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Il faut vraiment se discipliner parce que vous êtes tout seul. tout seul. C'est pour ça que j'appartiens à un groupe, à G7 affilié, parce que j'ai l'impression que je ne suis pas seule quand même. Si j'ai des questions à poser, on peut m'aider. Il y a quelqu'un qui va... pourquoi j'ai beaucoup de copains taxis, des collègues, enfin des amis. Parce qu'on ne peut pas tenir dans un métier comme ça tout seul. Ma sœur l'a fait et elle est restée que 10 ans taxi parce qu'elle avait vraiment... elle n'était pas ouverte à ça, à ce métier, à cette relation avec les hommes. Enfin, d'accepter ces hommes qui n'étaient pas toujours... correct, enfin pas correct, mais voilà, qui avait des petits mots parfois. Mais c'est une fausse liberté, mais c'est déjà un sacré luxe de penser que nous sommes libres.
Vous avez lavé la ceinture ?
Non, parce que pendant mes heures de service, je peux ne pas mettre ma ceinture.
Pourquoi ?
Ça a toujours été comme ça. Bah, je pense que c'est en cas d'agression, on ne peut pas se dégager, en fait. Je pense que c'était ça. Donc voilà, là, je fais partie de ces taxis qui ne mettent jamais sa ceinture pendant les heures de service. C'est l'habitude. Ben, je sors peut-être 10 fois par jour hein, dehors, donc c'est un peu... Mais même sur l'autoroute, je ne la mets pas en fait. C'est ça le vice, hein, c'est que... Parce que je suis immortelle, je suis un taxi. Enfin, pas immortelle, mais invincible, je suis un taxi. Pour moi, c'est comme ça en fait. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Je suis la patronne de la route. Et il va rien m'arriver comme ça. Nous sommes les invincibles de Paris.
Et affilié, qu'est-ce que ça implique ?
Affilié, c'est juste paye une cotisation sur une plateforme et donc tu deviens un affilié. Voilà.
C'est comme une franchise ?
C'est une franchise. Je paye G7 une fois par mois pour que, au lieu que je travaille dans la rue, mais je le fais aussi, si on me fait signe, je m'arrête, ils me donnent des courses radio. Il y a des taxis salariés et des taxis artisans. Moi, je suis artisan.
C'est-à-dire quoi ?
Ça implique que j'ai acheté une licence il y a très longtemps, mais puisque je suis là depuis 34 ans, mais qu'aujourd'hui, si tu veux être artisan, il faut que tu achètes une licence qui vaut à peu près 180 000 euros. Elle était avant Uber, elle était à 240. Presque un an ou deux après, elle était descendue à 115 000 euros, parce que Uber nous a fait beaucoup de tort. Et puis maintenant, elle remonte un petit peu. Là, elle est à nouveau en train de redescendre un petit peu. Mais ça a toujours été un peu comme ça dans le taxi. C'est à l'offre et à la demande. Hein. On ne peut pas dire sur quoi ça se base. Mais il y a toujours des licences qui se vendent. On n'a pas besoin de connaître un taxi pour lui racheter. Il y a une préfecture qui s'occupe de ça. On se met en relation.
Oui, parce qu'on ne s'improvise pas taxi. Déjà, il y a une formation.
Ah non, d'abord, vous allez à l'école de taxi. Hein. Il y a une formation qui doit durer à peu près 3 mois. Alors, la nouvelle réglementation, je ne la connais pas trop, mais moi, à l'époque, on faisait 3 mois d'école. Et nous, il fallait 1 an de permis qu'on n'ait plus. À l'époque, c'est quand on avait encore le 90. Et puis, on faisait, et puis on passait un petit examen. Il y avait moi, vraiment, je peux dire que j'ai été avantagée d'être une femme ce jour-là. J'avais 22 ans. Hein. Je devais faire 14 ans physiquement. Ça a été assez simple. J'ai un peu bafoué comme ça. Enfin, et ils m'ont un peu aidée, parce que je pense qu'ils voulaient aussi... au moins une femme jeune dans le taxi, parce que je crois que j'ai été la plus jeune femme taxi.
On s'est cru un peu les rois de Paris, hein. C'était comme ça, hein. c'était notre Paris en fait, et les autres passaient après au second plan. C'était chez nous d'abord, et ensuite les autres venaient se greffer là-dessus s'ils voulaient, mais c'était nous les patrons. Mais il fallait d'abord que ce soit nous qui, quand on rentrait sur la place de l'Étoile, c'est poussez-vous, c'est nous qui rentrons. Mais ça a beaucoup changé.
T'aurais imaginé que c'était comme ça le métier ?
Oui, je savais ce qu'était le taxi puisque je suis née dans ce milieu-là. Après, ça a totalement changé. Après, il y a eu une métamorphose totale de mon métier. C'est plus le même métier. Moi, justement, comme je venais du monde du sport, j'étais en survêtement toute la journée ou en jean basket, ce qui m'est interdit aujourd'hui. Enfin, parce que je fais partie du VIP parce que je suis G7 affiliée et que je fais partie de ce milieu-là. Donc mais voilà, on ne respecte plus, on accepte toutes les conditions des clients. C'est, oui, je vous en prie, allez-y. Mais vous inquiétez pas, il y a 12 bagages. Non, vous inquiétez pas, je vais les porter. Vous inquiétez pas, je vais les mettre dans ma voiture. C'est pas grave, c'est combien de kilos ? Ah oui, elle est bien lourde. Non, ne m'aidez pas, c'est pas grave. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça. Alors qu'avant, moi, quelqu'un, même de loin, qui me faisait signe et qui me disait, venez prendre la valise, je lui disais, mais tu rêves ou quoi ? Enfin, c'est même pas en rêve. Si tu ne mettais pas la valise dans mon coffre, limite, je te l'aurais mise. Mais là, maintenant, on est plein de bonnes intentions. Et c'est flatteur, parce que les gens sont gentils avec nous dans l'ensemble.
Cet artisan taxi s'est mis à son compte il y a 4 ans. Il n'avait pas compté avec la nouvelle concurrence d'Uber et autres VTC. 30% de véhicules en plus sur le marché pour des clients qui ne sont pas plus nombreux. Ces revenus accusent le coup.
Ils sont en train de créer des auto-entrepreneurs qui, eux, vont détruire des artisans comme moi. Ça fait 2 mois que je me paye une misère. Je suis à 1 000 euros par mois, donc c'est pas ce qu'on peut appeler un revenu décent pour quelqu'un qui fait 70-80 heures de travail par semaine.
Au salon des taxis, Uber, c'est l'ennemi à abattre. Mais ce que tout le monde reconnaît, c'est la modernité apportée par l'application américaine. La profession des taxis a dû se mettre à la page d'urgence.
Ça a été bénéfique un petit peu pour la profession. On était quand même sur la voie de la modernisation. Ça a probablement simplement accéléré les choses, quoi.
Au départ, on était vraiment en bisbis, hein, quand ça sortait sous les stationnements, les trucs, on jouait. En fait, j'ai mis longtemps à réaliser que les couloirs de taxi, parce qu'on a toujours dit des couloirs de taxi, que les couloirs de taxi n'appartenaient pas au taxi. C'est quand il y a eu cette ubérisation de cette concurrence déloyale, c'est arrivé que là, on s'est rendu compte que c'était pas chez nous. Hein. C'était la RATP qui avait la gentillesse d'accepter qu'on roule dans leur couloir. Donc, petit à petit, notre attitude a changé vis-à-vis d'eux. Parce qu'ils n'ont jamais autorisé que les VTC aient le droit de les prendre. Donc là, maintenant, il y a toujours un petit geste sympa. Quand il y a un autobus qui déboîte, on le laisse entre taxis. Quoi. Ça a beaucoup changé.
Tu penses que c'était que finalement cette oui. concurrence
oui. Bah forcément, elle a été que bénéfique. Ça nous a fait redescendre sur Terre. Parce que nous, les taxis, on a pensé pendant un moment, pendant des années, que personne ne pouvait nous toucher, qu'on pouvait se comporter mal avec les clients. Je ne parle pas en mon nom. Hein. Je parle parce que nous, on est une corporation, en fait. Quand je parle en taxi, je ne peux pas parler en mon nom parce que je me suis rarement mal comportée avec des gens. J'aime les gens, donc je me... Mais si des fois on disait au loin, oh, il a un pantalon bleu, ça ne m'intéresse pas, je m'en fiche, enfin, voilà, on pouvait dire aux gens non. Vous allez par là, oh, ben non, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais tu n'es pas là pour dire si ça t'intéresse ou pas. Tu es là pour que la personne monte et ensuite elle te dit je vais là et tu te tais, oui, avec plaisir. Même si c'est 500 mètres, même s'il va te mettre dans les bouchons pour le retour, ce n'est pas grave, il faut qu'il y aille. Si tu n'es pas faite pour ça, alors ne reste pas dans le taxi.
Est-ce que tu penses que la concurrence déloyale, hein, quand même, avec...
Uber, seulement. Parce que les autres VTC, ce n'est pas déloyal. Mais la Uber, oui, tout ce qui a été Uber, oui, ça a été déloyal.
Est-ce que tu penses que ça a eu un impact sur l'image du taxi ou est-ce que ça a été favorable pour vous?
Ça a été presque catastrophique sur le moment. Hein. Ça s'est joué à pas grand-chose si G7 n'avait pas été là pour sauver cette profession. Ça a été à ce moment-là très critique, mais maintenant, beaucoup de gens nous disent « je ne reprendrai jamais plus jamais ça, c'est terminé, que des taxis, ça va bien, vous êtes bien ». Enfin, on n'en parle presque plus, parce que ça fait maintenant, avant Covid déjà, ça y revenait déjà beaucoup. Et puis vraiment, ils ont pris conscience qu'on essaye de faire le maximum, que, avec tous les changements, avec tout Paris qui change comme ça... toute cette pression qu'on a quand même, que les gens ne connaissaient pas. Ils ne savaient pas, les gens, qu'on achetait des licences à 200 000 euros. Enfin, ils ne savaient pas qu'on était obligé d'avoir un certain standing de voiture, que nous, on paye des charges. Forcément, je veux bien faire un prix de 50% sur ma course, mais moi, 50% de mon compteur part au fisc, en fait. Donc, Uber, il a pu arriver parce qu'il ne payait rien. Donc, tu peux casser les prix, mais il faut que ça soit... Et puis, nous, on est tenu que 11 heures par jour de travail, pendant que les autres peuvent travailler 24 heures. Voilà, on va passer rive gauche. Parce qu'en fait, on dit rive droite ou rive gauche. On se place à Bercy, le long de la Seine, et là, c'est rive droite, rive gauche. Voilà la méthode. Ah ben moi, ici, quand je passe ici, j'adore passer. Hein. Moi, j'adore passer là parce que d'abord, vous venez ici l'été, le matin à 5h du matin, le soleil se lève. Moi, je dis toujours, c'est un cadeau d'être là à ce moment-là. C'est toujours un plaisir pour moi d'être ici. D'être dans Paris comme ça, tout est beau. Je ne vais pas vous dire la porte de la Chapelle hein, ou la porte Liancourt, mais là, c'est... Vous vous rendez compte, je vois ça depuis 30 ans, 34 ans, je vois ça. Et je ne m'en lasse pas.
Tour Eiffel à droite.
Tour Eiffel à droite. Et puis, l'Assemblée. Voilà. La Tour Montparnasse au loin. Paris, quoi. C'est un spectacle tout le temps, en fait. C'est jamais la même chose, mais tu vois des choses dingues, des... Des accidents, des poursuites, des tournages de films comme on en voit tout le temps, des mariages, des gens pour Alexandre III avec la robe de mariée. Enfin, c'est un spectacle. Enfin, pour moi, je le vois comme ça, c'est tout le temps comme ça, des gens heureux. Parce que tu vois que ça quasiment dans Paris, des touristes, la main dans la main, ils sont là, ils descendent des Champs-Élysées, ils sont heureux. C'est un bonheur, enfin, de voir ces gens-là, toujours le sourire comme ça. Tu ne vois pas le quotidien. En fait, tu oublies presque, dès que tu montes dans ton taxi, tu oublierais presque, tu t'en vas de Gennevilliers, tu t'en vas de la banlieue, et puis tu vas voir que des gens heureux, qui ne se rendent même pas compte que la vie est très dure juste à 5 minutes. Mais j'aime bien, c'est une chance de pouvoir s'évader de ça. Si en plus j'avais travaillé dans un endroit que je n'aimais pas, dans ma petite banlieue que j'adore, mais si tu ne sors pas de ton quotidien, c'est horrible. Enfin, c'est que moi, non, je vois d'autres choses. J'ai des choses à raconter. T'es taxi, t'es quelqu'un. Enfin, je ne sais pas. J'ai l'impression que quand je dis que je suis taxi, que les gens... Voilà, ça surprend, toujours. Ça m'épate à chaque fois, ça me touche. Mais j'ai l'impression que t'as dit que t'étais... je sais pas, moi, que t'avais gagné la Coupe du Monde, quoi. Non, je suis taxi.
Et les gens, quand ils vous parlent, il y a cette idée un peu de... La voiture comme un confessionnal.
Ah, on a l'impression qu'on a mis un siège rouge et puis qu'ils vont s'allonger et puis qu'ils parlent. Voilà, ça y est. Pendant, même si c'est 5 minutes, ils vont parler, ça leur fait du bien. Au revoir. Et voilà, nous sommes des psychiatres. Hein, les gens se dévoilent très souvent. Hein. Moi, je crois que c'est ce que j'aime dans mon métier. Hein, c'est que les gens nous parlent de tout et de rien. Et puis, on se rend compte que les soucis qu'on a nous-mêmes, chez nous, bah, c'est les mêmes que les autres, en tout compte fait. Donc, c'est rassurant. Il y a tellement d'histoires qu'on vit au quotidien, des belles histoires. Il y a des taxis qui ont écrit des livres. Ouais. Chaque taxi pourrait écrire un livre, en fait. C'est que ça, notre vie. Hein.
Alors, tu disais que c'est un métier où il faudrait écrire un livre. Alors, il y a une femme taxi qui s'appelle Claude Raymond, sorti un livre, qui s'appelle... Les petits taxis ont-ils des jambes, qui a été édité chez Flammarion, et on va l'entendre dans une archivina de 2001, et je veux bien que tu réagisses à l'archive.
Ma vie professionnelle est finie, je m'aperçois que c'est un métier que j'ai vraiment beaucoup aimé, et puis qui m'a appris beaucoup de choses, parce qu'on ne se contente pas d'insulter les autres. Hein. Bon, on conduit, c'est conducteur. Une chose, moi j'aimais bien conduire, mais surtout, on parle avec les gens. Et ça, à la fin de ma vie, je trouve que ça m'a beaucoup enrichi. J'aurais sûrement compris moins de choses si je n'avais pas fait ce métier-là.
Je suis dans mon taxi, là. Je n'ai pas pensé. Quand on rentre chez nous, on est encore dans le taxi, en fait. Hein. Il me parle tout de suite, mon mari. Mais moi, je me souviens, mon père nous disait tout le temps, vous me laissez 30 minutes et après, je suis à vous à 100%. Parce que nous, on est encore dans le taxi, en fait. Moi, je vais rentrer chez moi, je vais avoir 10 heures de bouchon, ça ne s'arrête pas comme ça dans ma tête. Je suis encore à 3000%. Donc, j'ai toujours, laisse-moi un petit peu de minutes. Déjà, il me raconte sa vie. Parce que moi, je ne peux pas tellement lui raconter la mienne. Ils n'ont aucune notion de ce qu'on vit. Donc, on a besoin d'un petit sas. Et après, je suis opérationnelle. Ah bah, de toute façon, je sais que ça sera demain matin. Donc, j'ai même pas, je sais qu'il faut que je me repose un petit peu là. Et demain matin, c'est reparti. Donc, je pense que oui, je suis assez étonnée d'avoir cette capacité d'avoir autant travaillé, quoi, en fait. C'est ça, et d'être encore prête à travailler encore. Parce que j'ai 57 et je voudrais aller à 70, donc. Et j'aurais travaillé peut-être plus de 50 ans dans le taxi. Presque 60, ouais, 50 ans, 55 ans, c'est énorme. Je veux battre le record. Je vais le battre si on me donne la santé.
Ça, c'est comme une légion d'honneur pour moi. On me donne ma petite médaille, comme quoi j'ai participé, parce que 30 ans de taxi, en fait, nous sommes récompensés pour... on a un petit diplôme qui nous dit qu'on a participé au bon rayonnement de la profession. Et ça, c'est exactement ça. C'est un pins. Alors, qu'est-ce qu'il représente? C'est un ancien taxi dessus, et c'est marqué la médaille du taxi.
Vous la mettez tous les jours?
Ah oui. Tout le temps. J'ai toujours une fierté d'être au volant de cette voiture. Je montre qui je suis, en fait.
I go all over. I take people to the Bronx, Brooklyn. I take them to Harlem. I don't care. Don't make no difference to me.
Thank you.
5 heures, ça fait un petit peu peur parce que c'est désert, en fait. Et puis, vous savez que si vous tombez sur quelqu'un qui vous emmène en banlieue, qu'il n'y aura personne dans la rue. C'est ça qui faisait un petit peu peur, qui fait un peu peur. Moi, je me suis posé plusieurs fois la question, même quand on emmène quelqu'un, vous le prenez dans la rue, il vous disait Charles de Gaulle, tu te posais la question de savoir s'il allait vraiment à Charles de Gaulle ou s'il allait te dire maintenant tu continues tout droit et puis on va s'arrêter dans un champ. Donc, quand on était une femme, il y avait ces petites questions. Maintenant, avec les plateformes, on est très sécurisé. On a les coordonnées de la personne, on sait où elle va, on a son nom, son adresse, sa carte bancaire, enfin, on a tout. À part d'être tombé sur un faux, mais malheureusement...
Ça permet d'être plus léger dans le travail.
Ah oui, surtout pour une femme.
C'est une protection.
C'est une protection. Ça nous a beaucoup aidé. De plus avoir d'argent aussi, enfin d'espèces, ça aide beaucoup. Mais on ne se pose plus la question aujourd'hui. On n'a plus ce genre d'appréhension.
Alors là, on est dans Paris. Comme depuis tout à l'heure, je suis obligée d'avoir un tarif. Sinon, si quelqu'un me aide parce que je suis marquée en libre, ça s'appelle un refus de charge. Donc là, je suis obligée de mettre le tarif. Donc là, on est dans Paris. Tarif A. Je suis arrivée, j'ai fait une réservation. Vous voyez, les 7 euros, réservation. Tac. Et ensuite, quand le client monte, hop, j'appuie. En fonction de l'endroit où on est, si c'est Paris, c'est le tarif A parce que jusqu'à 17h, de 10 à 17h, et après, on basculera au B. B, c'est le tarif de nuit qui commence à 17h et qui va jusqu'à 10h le lendemain matin. Mais ça, c'est dans Paris, parce que dès qu'on sortira de Paris, la nuit, c'est C. Quelques petites réglementations comme ça, mais c'est pas...
Allez, vous occupez pas des piétons, foncez, c'est tout ce que je vous demande. Oh, le pour eux, nom de Dieu, ça traîne, paf! Allez, mon vieux, dépassez la 403. Touchez pas votre changement de vitesse. Ce que ça veut dire, freiner derrière une 4 chevaux. Tenez, regardez, vous faites dépasser par un manurin. Mettez votre clignotant, tourne à gauche. Topez là, je reviens.
Alors, on a une police spéciale taxi qui s'appelle les Boers. C'est vraiment, ils sont là pour nous observer, pour voir où que ce soit, dans un aéroport, dans une gare, dans Paris, n'importe où. Ils peuvent se trouver n'importe où, à n'importe quel moment. Et ils sont là pour surveiller, justement, quand un collègue n'a pas le bon tarif, ça, c'est du vol. Donc, il aurait suffi qu'à ce moment-là, la voiture de Boers soit derrière lui. Ils vont l'arrêter, il va passer à la commission. Et en fonction de ce qu'il a déjà fait ou pas, il aura ou un mois d'arrêt de travail, ou 3 mois, ou après, il est radié. En fonction de la bêtise que tu as faite, c'est du vol. Quoi qu'il arrive, c'est du vol. Ça peut être un oubli, mais malheureusement, c'est souvent du vol. Et bien, du coup, ces gens, ils sont là. Enfin, ces gens, cette police, ces Boers sont là pour nous surveiller. Si on dépose pas bien, si on est incorrect avec un client, si on a une voiture qui n'est pas entretenue, si elle est toute cabossée, si on est un faux taxi, si on n'a pas les papiers en règle. Enfin, voilà, ils sont vraiment là, spécialisés pour nous. C'est monsieur lambda, quoi. Ils sont à côté de nous, on ne les voit pas. On les reconnaît, mais on ne les voit pas. On essaie de ne pas trop les voir.
Je te pose les 5 dernières questions, tu es prête ?
Mm-hmm.
Ton métier en un mot ?
Le bonheur.
Il faut quoi comme qualité pour exercer ce métier ?
Faut aimer le relationnel, en fait. Faut aimer rendre service, faut aimer sourire même quand ça va pas, parce que les gens te racontent des choses dramatiques parfois. C'est ça. Faut savoir aimer. Non, la qualité, faut aimer conduire. Ça, c'est la base. Si tu n'aimes pas conduire, ne viens pas. Mais si tu aimes conduire, voilà, viens dans le taxi. Mais conduire, c'est pas... Parce que les gens me disent souvent, oh, comment vous faites, j'arriverai pas à rester comme ça 10 heures par jour en train de conduire, moi je m'énerve. Oui, mais moi aussi je m'énerve quand je suis dans ma vie privée. Je m'énerve. Mais là, je suis là pour 10 heures. Donc, c'est pas la même chose que vous. Vous voyez, Puis maintenant, on n'est plus nerveux. On est relax maintenant. Être des vrais chauffeurs qui se tiennent bien, ça fait beaucoup de bien quand même. Même pour nous, on rentre beaucoup moins nerveux qu'avant. Mais on est rongé quand même de l'intérieur. Parce que parfois, il y a des gens, c'est pas toujours facile de prendre sur soi. Mais on le fait. Il faut faire un petit peu de yoga et puis ça va.
Ton lieu préféré ?
Ça a souvent été, enfin longtemps, la place des Vosges, mais maintenant elle est quand même un peu en travaux. Mais j'aime bien l'île Saint-Louis, enfin tout ce quartier-là. J'ai des goûts assez simples.
L'objet qui représente le métier ?
Ben, mon lumineux, hein, c'est ce qui fait tout. C'est mon objet, hein, c'est mon lumineux de taxi. C'est toute ma vie, hein, ce lumineux. Il y a marqué taxi dessus. Hein, c'est taxi parisien en plus. Donc, c'est ce qui a fait de moi cette femme, quoi. Enfin, c'est toute ma vie. C'est ça qui est fou. Hein. C'est vraiment toute ma vie. Quand il n'y aura plus ça, je ne veux même pas conduire une voiture où il n'y a pas marqué taxi. C'est ça, en fait, mon truc de passer incognito à côté des gens. C'est une angoisse. Je ne veux pas être comme tout le monde, en fait. Je leur marque que je suis un taxi. J'ai un privilège, je peux prendre les couloirs, là. C'est quand je vois assez bouché que je suis là, mais je me dis, mais quel luxe. C'est un rêve. Je ne sais pas. Je ne me vois pas avoir une petite voiture normale comme monsieur tout le monde. Ça sent ce lumineux-là. Je crois que même le petit pins que j'ai là, qui a été la récompense de la ville de Paris, je crois que je dirais un jour à mes enfants, vous le mettrez quand je ne serai plus de ce monde. Mais je ne peux pas leur dire maintenant. On ne va pas parler de choses comme ça. Mais non, c'est... Je ne me vois pas faire autre chose. Je ne veux pas... C'est vraiment c'est vraiment ça, en fait. C'est de ne plus avoir cette écriture. Enfin, qu'on ne me reconnaisse pas en tant que telle. C'est ça qui me chagrine presque plus que d'arrêter mon métier. C'est que d'un seul coup, je serai comme tout le monde. Alors que là, non. C'est mon identité, c'est moi.
Il dit quoi de toi, ton métier ?
Bah, il dit que j'étais une femme courageuse. Hein. Il dit qu'il est content. Hein.
Si tu devais définir ton taxi, qu'est-ce que tu dirais ?
Mon taxi ?
Ouais, c'est quoi ton taxi ? C'est quoi ta voiture ?
Bah, c'est ma copine, en fait. Hein. C'est le prolongement de mon bras, en fait. Je passe plus de temps avec ma voiture qu'avec les personnes de chez moi, hein, mes enfants, mon mari. C'est ma confidente. Je lui dis, tombe pas en panne. Enfin, on se parle, hein, inconsciemment, on se parle beaucoup. Hein, on se dit, déconne pas, t'as 6 ans, c'est pas le moment. Quand je la vends, j'aime pas. C'est un bout de ma vie. On a fait un parcours, on a fait 250 000 km ensemble. Enfin, c'est pas rien, c'est un membre de ma famille pendant que je l'ai. C'est pas un objet, c'est ma voiture. Quoi. C'est un petit bout de ma vie. Tu te fais. Et d'ailleurs, c'est personnel une voiture. Enfin, rarement les taxis prêtent leur voiture. C'est un bout de moi en fait. C'est mon prolongement. C'est moi.
Merci Valérie.
De rien.
Je ne sais pas pourquoi je suis comme ça. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire parce que pour moi, je ne me vois pas arrêter ça. C'est ça qui est dingue. Je ne me vois pas arrêter ma vie comme ça.
Thank you. vas-y, Joe.